Vous écoutez RTL.
Bonjour Marine Le Pen.
Bonjour.
Vous avez dit, dans l'Union européenne, tout a échoué, tout oui. sans exception. Alors oui. aucune activité humaine ne réussit tout parfaitement, mais aucune n'échoue non plus complètement. C'est pas un peu d'exagération ?
Non, il n'y a pas d'exagération, parce qu'en réalité, ce qui a marché dans l'Union européenne, d'abord...
Qu'est-ce qui a marché ?
Bien souvent, ça ne dépend pas de l'Union européenne. Par exemple, Airbus, Ariane, c'est exactement l'inverse de la construction de l'Union européenne, puisque c'était des projets... C'est l'Europe que je veux, moi.
Oui.
C'est l'Europe des nations, c'est l'Europe des États qui se mettent ensemble pour construire des projets librement décidés, dont ils déterminent les périmètres de
mais
manière souveraine, etc.
Ça n'a été possible que parce qu'il y a eu l'Europe, qu'il y a eu un état d'esprit, que parce qu'il y a eu des coopérations.
Non, mais ça, qu'il y a eu des coopérations internationales, ça a toujours existé, monsieur Apathy. On n'a pas attendu l'Union européenne, permettez-moi. Ça a toujours existé. Les relations interétatiques ont toujours existé. Et moi, je pense qu'elles sont fécondes lorsqu'elles émanent de nations, d'états, de nations qui sont libres et qui peuvent défendre leurs intérêts.
Et le formidable
développement. Et ne pas participer si les intérêts sont contradictoires.
Le formidable développement du marché économique en Europe, dont la France a profité pendant 30 ans.
Non,
on profite beaucoup moins.
Non, mais je ne crois pas du tout. Non. La réalité, c'est que plus on a fait du libre-échange, moins ça a marché.
Mais ça a marché.
Et vous savez, il y a un certain nombre de pays, comme les États-Unis, ils sont très pour le libre-échange pour les autres. Donc ils imposent le libre-échange aux autres, mais à eux, ils se protègent grâce à des droits de douane, grâce à des barrières tarifaires ou non tarifaires. Bon. Donc en fait, le libre-échange, c'est, comment dire, l'excès de libre-échange. Le fondamentalisme du libre-échangiste est quelque chose qui tue les économies. Et là, pour le coup, la France est un bon exemple. En matière de chômage, en matière de désindustrialisation, il faut qu'on tire le bilan. Quand ça a échoué, ça a échoué. Je veux dire, moi, je comprends bien que la classe politique n'a qu'une peur, en fait, c'est d'admettre son échec. Car elle pense qu'en admettant son échec, eh bien, elle va être sanctionnée par les électeurs. Donc, elle défend l'Union européenne à tout prix, y compris au prix de l'absurdité. Mais en réalité, elle ne défend pas l'Union européenne, elle se défend elle-même.
C'est l'Europe qui a échoué ou c'est la France qui a échoué en Europe? Parce que quand on est en Allemagne, on ne dit pas l'Europe c'est nul, c'est minable.
C'est une vraie question. C'est une vraie question parce qu'en fait l'Union européenne est incontestablement dirigée par l'Allemagne.
C'est plutôt la France qui a échoué en Europe.
Donc ce sont les dirigeants français, les dirigeants politiques français qui ont laissé l'Allemagne prendre la main sur l'Union européenne. Si,
c'est parce que l'Union France en Europe.
Non, parce que l'Union européenne. Non, parce qu'il y a que l'Allemagne qui gagne. Alors évidemment, c'est sûr que quand c'est vous qui décidez, c'est quand même plus facile.
C'est l'Allemagne qui gagne parce qu'elle prend les décisions.
Non.
Parce que
tout est conçu autour de l'intérêt allemand, c'est ça le problème, si vous voulez. Mais vous avez raison de pointer le doigt sur la responsabilité des dirigeants politiques de droite comme de gauche qui ont laissé l'Allemagne prendre la main. Vous savez ce qu'on dit en France, on dit quand il y a un traité qui est contraire à la Constitution française, on change la Constitution française. Quand il y a un traité qui est contraire à la Constitution allemande, on change le traité. Bon, ben c'est exactement le problème de l'Union européenne. Alors c'est vrai, nos dirigeants ont été faibles, ils ont été imprévoyants, ils n'ont pas défendu l'intérêt du peuple français, et c'est pour ça que les Français doivent reprendre la main.
Et les Allemands ont défendu les intérêts du peuple.
Bien sûr, les Allemands ont défendu l'intérêt de l'Allemagne.
L'Europe est ce que les gens en font. C'est pas un échec en soi.
Non, l'Europe est ce que l'Allemagne en fait. C'est ça le problème.
Pourquoi voulez-vous siéger dans ce temple de l'échec qu'est le Parlement européen ?
Parce que je veux bloquer toutes les avancées de l'Union européenne. À chaque fois qu'il y a une avancée, c'est une souffrance supplémentaire pour les Français. Il faut bien que quelqu'un bloque ça. Donc je vais bloquer tout nouvel élargissement, surtout depuis que Nicolas Sarkozy a supprimé l'obligation d'un référendum dans la Constitution pour tout nouvel élargissement. Merci Nicolas Sarkozy, parce que ça aurait quand même été bien si les Français avaient été consultés.
C'était Jacques Chirac qui avait introduit la notion de
référendum. Oui, et Nicolas Sarkozy l'a supprimé en 2008, oui, lors de la réforme de la Constitution. Donc on va bloquer tout nouvel élargissement, on va bloquer toutes les politiques qui sont néfastes aux Français, voilà. Bloquer le traité transatlantique, tiens, ça va être
ça veut dire
quelque
que
chose
vous serez plus présente au Parlement européen que vous n'avez été.
Écoutez, arrêtez avec ça. Je suis présente parce que je suis présente à 80% des plénières. J'ai raté 8 plénières sur 70 en 5 ans. 8 plénières sur 70, dont 4, monsieur Apathy.
60 et quelques pourcents.
Monsieur Apathy, dont 4 pendant la campagne présidentielle. Je pense que les Français ne me tiennent pas rigueur.
Vous pensez pas que vous êtes absentéiste?
Non, pas du tout. Je ne suis pas absentéiste. Et vous savez que nous sommes non inscrits. Comme non inscrits, nous sommes des sous-députés, c'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens qu'ont d'autres députés français qui appartiennent à un groupe. Mais ça, je vais régler le problème, puisque je vais constituer un groupe.
C'est ce que vous dites.
Je l'espère, en tout cas.
Êtes-vous d'accord pour que le Parlement européen cesse de siéger à Strasbourg et qu'il demeure définitivement à Bruxelles, Marine Le Pen?
Pourquoi on fait ça?
Parce que ça coûte 180 millions d'euros. Tiens, une bonne raison. Tiens.
Ah, parce que ça coûte 180 millions d'euros.
Oui, mais dans ces cas-là,
il faut changer les traités. Enfin, je veux dire, il n'y a pas d'autre urgence, non?
Mais puisque l'Europe, c'est si mal que ça qu'elle reste à Bruxelles, non? Pourquoi?
Moi, honnêtement, je suis encore une fois pour que le pouvoir revienne en France, et particulièrement qu'il revienne aux Français. Mais c'est la seule urgence?
Attends, je sais pas, je vous pose la question. Ah,
parce qu'on pourrait, après tout, faire payer des impôts aux fonctionnaires européens, hein, par exemple, ce serait bien. On pourrait arrêter de leur verser des retraites absolument fararamineuses, ça pourrait être bien aussi. S'il y a des économies à faire, c'est quand même étonnant que la première économie consiste à supprimer la présence à Strasbourg.
C'était une question, vous y avez répondu, voilà, c'est très bien. Vous êtes donc candidate aux élections européennes, Marine Le Pen. Votre personnalité est appréciée diversement par les Français, sondage BVA du publié dans Le Parisien le 11 mai, vous seriez, selon ce sondage, d'extrême droite, 77%, agressive, 71%, démagogique, 67%, courageuse, 63%, raciste, 60%.
Vous en oubliez un, là.
Oh oui, il y en a d'autres, oui. Convaincante, 52%.
Ah, c'est pas mal, ça, convaincante, 52% quand on fait de la politique.
Compétente, 38%.
Bah écoutez, s'il y a 52% des Français que j'arrive à convaincre, monsieur Appati, je pense que je serai peut-être présidente de la République
agressive
dans les 10 prochaines années. Oui, c'est vrai que vous l'êtes jamais agressif.
Mais je vous pose la question à vous. Moi, je ne suis pas candidat,
non,
ça vous a échappé.
Non, je suis pas agressive, je suis vive, j'ai du caractère, j'aime pas me laisser marcher sur les pieds et je suis souvent agressée.
Michel Sapin a dit hier au grand jury, Jérôme Kerviel est un escroc. Partagez-vous son point de vue?
Il a été condamné par la justice. Mais enfin, en même temps, quand on demande une grâce, c'est qu'on a été condamné. Donc, je vois pas l'intérêt de ce genre de déclaration. D'accord. Moi, ce dont je suis sûr, c'est que M. Sapin s'est rendu coupable d'une escroquerie politique. Lui. Celle qui a consisté à faire croire qu'ils avaient séparé les banques de dépôt et les banques d'affaires, alors qu'en réalité, ils n'ont absolument pas fait cela. Ils n'ont donc pas du tout mis la finance, combattu la finance comme ici était engagé avec François Hollande pendant la campagne. Chacun ses escroqueries.
Jérôme Kerviel, un escroc ou pas?
Peut-être, je sais pas, j'ai pas suivi ce dossier-là, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, d'accord, c'est que c'est un pion d'un système, Jérôme Kerviel. Et je veux dire, s'acharner sur un homme, mais ne pas remettre en cause le système de la spéculation qui permet aux banques de jouer au casino avec les économies des déposants, ça, je trouve que c'est un peu facile.
C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, beaucoup de gens notent que vous dites.
Eh bien, vous voyez, parfois.
Le plus souvent, les mêmes choses que Jean-Luc Mélenchon.
Parfois, Jean-Luc Mélenchon peut avoir raison, parfois. Dans le constat, pas dans les solutions, j'ai remarqué.
Marine Le Pen, qui n'est pas agressive, était l'invitée d'RTL ce matin. Et moi non plus, je ne suis pas agressif. Bonne journée.
Bonne journée à tous les deux. Merci beaucoup, Marine Le Pen. À demain, Jean-Michel Appati.